Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour. À qui appartiennent nos enfants? La question est un peu provocatrice, je l'avoue. Pour vous rassurer tout de suite, de mon point de vue, un être humain n'est pas un objet de possession et donc les enfants appartiennent à eux-mêmes, en fait. Chacun est responsable et souverain sur sa propre vie. C'est en tous les cas ce que les droits de l'homme et du citoyen nous apprennent. Mais nous allons voir pourquoi je pose cette question aujourd'hui et comment la limite de la liberté individuelle et de la citoyenneté dans toute sa souveraineté sont franchies. Bon, elles sont franchies de manière sans doute très variée dans notre réalité humaine, mais ce qui nous touche là tout particulièrement et ce qui me pousse à poser cette question, c'est la situation de l'instruction en famille. Donc pour ceux qui ne sont pas informés de cette question, l'instruction en famille a été remise en question il y a quelques années et limitée drastiquement depuis un peu plus d'un an, je pense, une ou deux années. Je n'ai pas du tout les dates en tête, donc je vais peut-être être approximative sur la période. Mais j'ai beaucoup participé au débat et même à la confrontation, on va dire, juridique et politique en donnant mon point de vue sur cette situation, puisque je défends le pluralisme des possibilités d'accompagnement des enfants. J'ai de plus en plus de mal à utiliser le mot éducatif. Ceux qui me connaissent savent bien pourquoi. Donc, il me semble que c'est depuis 2019, cette question de l'instruction en famille est rebattue par les politiques qui trouvent opportun d'y mettre un terme afin que tous les enfants retournent sur les bancs de l'école et qu'il ne soit plus possible de garder ces enfants à la maison pour les accompagner d'une autre manière qui nous est propre, que ce soit l'instruction en famille pure et dure avec des temps scolaires organisés à la maison, voire même avec un précepteur pour certains, ou des cours par correspondance, plus ou moins privés, plus ou moins élaborés, avec plus ou moins de devoirs à rendre, jusqu'au unschooling, qui est une autre manière de considérer l'apprentissage et qui prend en compte le fait que l'enfant apprend absolument tout le temps, depuis sa naissance et même avant sa naissance, et que toutes les connaissances et les informations qu'il engrange naturellement constitue, elle aussi, le socle commun de connaissances et de compétences qui est attendu par l'éducation nationale. Donc ce panel de possibilités qui vont de vraiment l'école à la maison ou on fait école à la maison jusqu'au unschooling sont en train de disparaître progressivement puisque désormais l'instruction en famille est soumise à autorisation avec plusieurs motifs de demande. Parmi les motifs, il y a un diagnostic d'incompatibilité avec l'école. Il y a les enfants qui sont en situation artistique ou sportive qui nécessitent un aménagement de leur emploi du temps. Il y a les enfants qui voyagent avec leurs parents parce que les parents sont mobiles. Et il y a la situation propre à l'enfant que nombre de personnes dont je fais partie et nombre de juristes ne savent pas trop à quoi ça fait référence. Et visiblement, on a du mal à construire une jurisprudence avec ça, puisque d'une académie à l'autre, les réactions ne sont pas du tout les mêmes et les autorisations ne sont pas, semble-t-il, données de manière unanime et uniforme. La plupart du temps, dans certaines académies, ce quatrième motif est refusé et il y a une injonction de rescolariser l'enfant. Voilà la situation. Et j'aime bien le mode témoignage. Aussi, je vais vous dire comment c'est pour moi dans mon rapport de parent avec mes enfants. Aujourd'hui, nous sommes organisés en nation, en pays, et nous avons délégué un grand nombre de responsabilités aux institutions. Il y a une institution pour gérer le travail, il y a une institution pour gérer la santé, il y a une institution pour gérer la défense nationale, et il y a une institution qui prend beaucoup de place, puisque c'est un énorme poste dans chaque gouvernement, où nous déléguons l'accompagnement de nos enfants vers les compétences qui leur sont nécessaires pour trouver leur place dans la société. Donc cette délégation, elle est vraiment très ancrée dans notre culture. Et les personnes qui tentent de reprendre leur pouvoir personnel par rapport à cette organisation sont souvent considérées comme marginales ou tout au moins alternatives. Et c'est pour ça qu'on va parler de médecine alternative, par exemple, de mode de vie alternatif avec de plus en plus d'écolieux, d'oasis, d'éco-villages qui se créent. On va parler d'une agriculture alternative lorsqu'on n'utilise pas l'agro-industrie ni l'agrochimie dans les modes de production, mais qu'on retourne vers des modes plus écologiques. Et on va parler aussi d'école alternative ou d'éducation alternative lorsqu'on choisit de ne pas mettre ses enfants dans le système public. Donc l'alternative, c'est la marge. Nous sommes en quelque sorte dans une marginalité qui a quand même tendance à se développer ces dernières décennies, puisque de plus en plus de citoyens deviennent conscients que le système tel qu'il est organisé n'est pas pérenne, n'est pas bienveillant, n'est pas bien traitant à tout égard, même s'il a apporté aussi son lot de satisfaction et que finalement on en profite tous. Là, je suis en train d'enregistrer sur un téléphone portable chinois. qui a été fabriqué en Asie sans doute, et transporté par des camions dont le carburant vient des zones pétrolières du Golfe. Tout ça est passé par une chaîne de grands magasins, et ça me permet aujourd'hui d'enregistrer ce podcast. Donc j'en profite aussi à de multiples égards, parce que je fais partie de ce système dans lequel je suis immergée. Néanmoins, la marge qui nous permet une certaine liberté de choix, qui nous permet de dessiner ou d'écrire notre aventure personnelle au sein de la société telle qu'elle est organisée, c'est un trésor. C'est absolument essentiel que ça existe et que ça continue d'exister, et même que cette marge puisse se développer, parce que c'est vraiment l'espace de la créativité et c'est aussi l'espace de la résilience. Si un système ne fonctionne plus parce qu'on voit qu'il est destructeur, qu'il est limité et que de toute façon il va s'éteindre naturellement lorsqu'il aura épuisé ses ressources, eh bien il est absolument essentiel que la marge, l'alternative, puisse s'expérimenter et se vivre pour construire la suite. C'est vraiment le principe fondateur de la résilience. C'est de pouvoir sortir de l'ordinaire pour aller explorer l'extraordinaire, les chemins les moins usités, ceux qui n'ont peut-être pas encore fait toutes leurs preuves, effectivement, qui sont des chemins qui sont interrogés, qui sont expérimentés et qui pourront, s'ils s'avèrent satisfaisants, se substituer partiellement ou totalement au système moribond que nous sommes en train de quitter petit à petit par la force des choses. Lorsque un gouvernement ou une autorité remet en question cette marge, c'est très très préoccupant. C'est très préoccupant parce que ça compromet vraiment la vitalité de notre société. Ça compromet sa capacité à se renouveler. Ça compromet également la souveraineté des personnes et le respect des droits de l'homme et du citoyen. L'invitation du gouvernement face à l'instruction en famille, c'est de limiter les possibles. C'est que la masse des enfants qui existent dans la nation utilisent le même parcours qu'est celui de l'éducation nationale ou de l'école privée, mais c'est l'école. Comme si la seule réponse à l'accompagnement des enfants, c'était l'école. Et cela prive des milliers de familles d'un choix extrêmement réjouissant, extrêmement riche pour l'écrasante majorité d'entre elles, de pouvoir vivre une aventure familiale d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, d'enrichissement mutuel, d'exploration diverse, où s'intègrent des voyages, des ateliers, des rencontres avec les voisins ou avec les familles qui font les mêmes choix ou des choix différents. André Stern raconte comment l'enfant qui n'est pas à l'école et qui donc est à la rencontre d'autres citoyens dans la rue, dans les champs, là où il se promène, va venir enrichir et illuminer parfois le quotidien de personnes qui sont souvent très anonymes dans leur fonction. Que ce soit, il raconte la personne qui est en train de conduire une moissonneuse-batteuse et qui voit un petit bonhomme de 3 ou 4 ans qui le regarde avec des yeux admiratifs, comme si vraiment il était face à une divinité. Et ce monsieur qui fait rentrer le petit garçon dans sa moissonneuse-batteuse pour lui faire expérimenter ce que c'est d'être dans une moissonneuse batteuse en train de traverser un champ à la récolte des céréales, et comment cette présence des enfants dans la société civile du quotidien est manquante lorsque tous les enfants sont à l'école et qu'on a organisé cette rupture. En fait, on est vraiment dans une société de la séparation et on prétend lutter contre les séparatismes, alors que l'interdiction probable qui est en train de se profiler de l'instruction en famille, c'est la construction d'un mur encore plus haut entre les enfants qui sont en train d'apprendre et de grandir dans notre société et ceux qui font société au quotidien, qui exercent leur métier, qui exercent leur rôle dans la vérité, le réel de ce quotidien, et qui est tellement inspirant et nourrissant aussi pour les enfants. Donc sous prétexte d'éviter les séparatismes, on sépare. On sépare, on stigmatise. Donc le gros argument qui a été amené par le président Macron pour justifier de cette nouvelle mesure, ça a été caricaturé en disant qu'il existe des enfants qui apprennent le Coran au fond d'une cave en ne voyant pas la lumière du jour quasiment. Enfin, c'est grotesque parce que les extrêmes existent partout. Les accidents sociaux, les accidents de parcours existent sous toutes les formes, y compris au sein de l'éducation nationale. D'ailleurs, si vous regardez le parcours des terroristes qui ont agi et qui ont traumatisé, bien sûr, la population française ces dernières années, vous verrez que ce sont des jeunes qui sont passés par les bancs de l'éducation nationale, les frères Kouachi et compagnie. Donc ce sont des enfants qui étaient scolarisés. Donc comment on arrive à des conclusions aussi grotesques que de dire on va éviter des extrémismes en limitant l'accès à l'instruction en famille? C'est complètement stupide. Ce n'est pas fondé, en fait, c'est anti-scientifique. C'est vraiment de la caricature et de la manipulation. L'expérience que j'ai au contact de ces familles qui choisissent l'instruction en famille, c'est dans une écrasante majorité des cas, des gens qui ont fait un choix de vie, tout simplement, qui ont envie de vivre l'aventure avec leurs enfants, qui souvent ne sont pas tellement d'accord avec la proposition du système public, où l'enfant va être assis la majorité du temps à étudier un programme qu'il n'a pas choisi, qui l'intéresse que très variablement, et qui, pour certains enfants, s'avère presque vraiment totalement indigeste, avec pas mal de syndromes qui émergent de plus en plus, hein, parce que peut-être on leur permet aussi davantage d'exister, on a mis des mots dessus, mais des phobies scolaires, des troubles 10, des enfants qui font des crises d'angoisse, de spasmophilie, du stress, etc. Et tout ça se vit à l'école aussi. Donc l'école n'est absolument pas ni un endroit idéal, ni un endroit 100% bien traitant pour les enfants, loin de là. Donc il y a des parents qui se disent, bah oui, moi mes enfants, bah, ils n'iront pas sur ces bancs-là parce que je leur propose autre chose. Je leur propose un mode de vie où on va apprendre en vivant ensemble à la maison, dehors, en faisant des ateliers, en allant au cirque, au spectacle, en allant rejoindre des groupes qui font des activités passionnantes et en peut-être acquérant des didactiques pédagogiques alternatives comme la pédagogie Montessori ou d'autres qui permettent aux enfants d'accéder à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques, à la connaissance, à la compétence d'une manière différente. Moi, j'étais fière de vivre dans un pays où cette diversité pédagogique est reconnue, est maintenue et protégée par des lois. Aujourd'hui, je me sens honteuse et désespérée de voir que cette liberté est en train de s'effondrer. En tant que maman, à aucun moment, je ne peux accepter l'idée que mon enfant appartient à un État, une nation, dans le sens d'une appartenance qui l'obligerait à se soumettre à des valeurs, à des choix qui ne sont pas du domaine de la protection ou de la sécurité des populations. Parce que ça, oui, que l'État se positionne pour faire vivre des lois et des règles qui protègent, qui permettent de rendre justice à l'intégrité psychologique et physique de chacun. Il y a déjà beaucoup à dire et à regarder dans ce domaine, hein, puisque c'est interprétable aussi. Il y a toute une partie de la population qui, lors de la crise Covid, a considéré que le vaccin était un choix dangereux pour la santé, tandis que l'État proclamait que ne pas se vacciner était un choix dangereux pour la santé. Donc vous voyez, il y a vraiment des interprétations possibles et des choix subjectifs, étayés par des arguments qui sont aussi valables d'un côté que de l'autre sans doute, mais qui en tout cas ne sont pas tranchés. Et l'idée que je me fais d'une démocratie, c'est un espace où il y a de la liberté de choisir, où il y a de la liberté d'être soi, où il y a de la liberté de pouvoir porter une opinion sur un sujet. Et pour autant que nos choix ou nos opinions ne porte pas préjudice à quiconque, comment se fait-il qu'on nous confisque cet espace? Comment cela est-il possible? L'écrasante majorité des enfants instruits en famille que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré énormément, j'en ai rencontré beaucoup ces 30 dernières années, ce sont des enfants pour la plupart épanouis, riches d'une passion, riches d'une découverte qu'ils ont fait pour eux et qui les emmène vers des domaines de compétences, par exemple la musique, ou le dessin, ou l'écriture, ou le voyage. Ce sont des enfants qui ont eu la possibilité de développer un rapport au vivant exceptionnel, puisqu'ils sont immergés dans la vraie vie. Ils ne sont pas obligés d'aller s'asseoir 6 ou 7 heures par jour sur un banc à écouter des cours, ou à faire des fiches de travail, ou des travaux pratiques dans un laboratoire. Ils sont dans la vraie vie, ils sont au jardin. Ils sont avec les animaux, ils sont avec les voisins, ils sont avec les amis, ils sont avec leurs parents. Quand ils ont envie de lire, ils lisent. Quand ils ont envie de dessiner, ils dessinent. Quand ils ont envie de jouer du piano, ils jouent du piano. Quand il y a une passion qui émerge, les parents sont là pour soutenir, pour payer des cours, pour trouver des intervenants. Très souvent, je les ai vus investir beaucoup, ces parents, même financièrement, dans du matériel pour que l'enfant puisse pratiquer quelque chose qui le passionne. Donc ce sont des parents qui sont très présents auprès de leurs enfants, qui sont là pour répondre à leurs questions. Comment voulez-vous répondre aux questionnements personnels individuels lorsque vous avez face à vous une classe de 30 élèves pendant 2 heures par semaine quand on est au collège? Ce n'est pas possible. On ne peut pas nourrir chaque être qui grandit dans un espace comme celui-là, très fonctionnel, en plus avec un programme à accomplir dans un délai défini qui met énormément de stress, avec un système compétitif de jugement et de notation, de classement, de tri, où on va trier entre les bons et les mauvais élèves. C'est une catastrophe dans la construction d'un humain, cette organisation. Alors il y a ceux qui tirent leur épingle du jeu, qui sont au bon endroit parce que forcément ils sont dans les têtes de classe, ils supportent assez bien cette proposition. Mais il y a tous ceux qui restent sur le carreau, qui sont pas bien avec cette proposition. Il y a tous ceux qui seraient tellement plus épanouis et tellement plus enrichis à vivre autre chose. Donc pourquoi supprimer cette possibilité? Quel est l'intérêt? Et du coup, je me suis demandé, oui, à qui appartiennent nos enfants, en fait? Est-ce qu'il pourrait y avoir, parmi les élus du gouvernement et au sommet de l'autorité, ce sentiment que les citoyens leur appartiennent au point qu'ils peuvent jouer et influencer à ce point sur leur destin? C'est insupportable. Ce sont des idées qui ont été largement développées dans l'histoire, puisqu'il a fallu, dans l'histoire de la domination, bâtir des armées. Il a fallu soumettre les masses. Il a fallu influencer les masses. C'est toujours le cas pour ce qui concerne la finance et le monde industriel, dont les intérêts sont dominants, dont les intérêts dominent les choix qui sont faits actuellement et qui ont besoin, pour fonctionner, d'une certaine docilité, qui ont besoin de consommateurs, qui ont besoin de citoyens qui vont être structurés pour la croissance économique. Le narratif qui est utilisé par les décideurs pour convaincre la masse de la population que c'est bien que tous les enfants aillent à l'école, c'est un narratif complètement biaisé, qui prétend faire le bien, qui prétend que l'école laïque, gratuite, pour tous, c'est comme un cadeau qu'on fait aux enfants de notre monde. Il suffit de voir avec quel engouement les enfants partent en vacances et souvent avec quelle réticence ils abordent le dimanche soir de fin de vacances pour se dire « tiens, demain c'est lundi et il y a l'école ». Quel est le sentiment réel de tous ces enfants qui retournent à l'école après avoir été en vacances? Est-ce que vraiment ils vivent l'école comme un cadeau? Pour avoir écouté nombre d'entre eux, je sais que le cadeau, il est dans la rencontre avec les autres. Je vais retrouver des camarades à l'école, des copains, des copines. Je vais nourrir un sentiment d'appartenance. Je vais faire des rencontres. Et c'est ça qui les nourrit, en fait, les enfants, beaucoup. Mais ce n'est pas les contenus ni l'organisation de l'école. Ils pourraient être nourris tout aussi bien, bien, bien plus efficacement, même bien plus en profondeur, loin du harcèlement et des relations violentes que beaucoup rencontrent à l'école, dans un autre contexte, beaucoup plus ouvert sur le vivant, sur la société civile, sur la nature, sur la liberté. Et ça, j'en ai fait l'expérience, donc je peux en parler. Pendant 21 ans, j'ai vu des enfants, des adolescents, des adultes coexister sur un lieu vivant, dans la liberté de choix, dans la liberté d'être soi, dans la compétence relationnelle et se nourrir de ce contexte d'une manière très efficace pour l'accomplissement humain. Donc lorsqu'on nous raconte qu'il n'y a qu'à l'école que cela peut s'accomplir, se jouer, c'est tout simplement complètement faux. L'école est un moyen parmi d'autres de voir grandir des enfants, un contexte parmi d'autres. Et quoi qu'il en soit, l'enfant, où qu'il soit, il va apprendre de son environnement, il va apprendre de ce qui lui est proposé, il va questionner, il va interroger. S'il est vivant, s'il est connecté à l'ouverture qui le pousse sans arrêt à explorer, découvrir, expérimenter, alors il va apprendre. Et je ne suis pas certaine que l'école telle qu'elle est organisée soit le meilleur endroit. Je suis même convaincue du contraire aujourd'hui. Donc j'ai juste envie de terminer en disant que ce que j'ai envie de dire aujourd'hui vraiment à ce sujet, c'est que en tant que mère, en tant qu'humaine, en tant que citoyenne du monde, je n'autorise personne à estimer que mon enfant lui appartient et qu'il a des droits sur mon enfant. Ce sont les parents qui ont des droits sur leurs enfants, dans la limite des règles et des lois qui sont imposées pour la protection et l'intégrité des enfants. Je dirais même que les parents n'ont pas des droits sur leurs enfants, mais des devoirs de les protéger, de préserver leur intégrité, le devoir de les accompagner, le devoir de les comprendre et de respecter leurs besoins. Et l'État devrait avoir le devoir d'accompagner et de protéger l'entité familiale tout en respectant la couleur de chacun, tout en respectant les convictions de chacun, la pluralité des idées et des convictions, la pluralité des modes de pensée. C'est ce qui définit une démocratie. Vous connaissez le célèbre poème « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Les enfants n'appartiennent à personne. Il y a une petite fille qui vient de faire la rentrée, là, on est début septembre, et qui m'a dit bah, « C'est étrange, dans ma classe, la maîtresse, elle nous a donné des numéros. On n'a plus besoin d'écrire notre nom et notre prénom. On écrit juste notre numéro. » Et je me suis dit « Mais à quand le code barre, en fait ? À quand le code barre comme un produit de consommation ? Si nous continuons de considérer les humains comme des objets donc qu'il faut gérer, qu'il faut maîtriser, qu'il faut calibrer, qu'il faut produire. Alors oui, nous allons vers une dérive totalement inacceptable et totalement contraire à la vision que nombre d'entre nous se faisons du vivant et de ce que nous avons envie de vivre. Et ce que nous avons envie de vivre est non négociable. Ce n'est pas négociable. Notre vie nous appartient, ma vie m'appartient, la vie de mon enfant lui appartient. Et c'est non négociable. Donc si mon enfant veut apprendre, comme ça a été le cas à la ferme des enfants, à la ferme, avec les chèvres, avec le jardin, avec les poules, avec une bibliothèque foisonnante d'ouvrages, avec l'ordinateur aussi et le téléphone portable, pourquoi pas, avec les mille et une rencontres que l'on fait sur un lieu de vie, un lieu de passage, un lieu de voyage, avec les ateliers où il est possible de faire de la poterie, de découper du bois, d'organiser la rencontre avec des professionnels compétents, de faire du cirque, du théâtre, du mouvement, de la danse, des spectacles, de vendre des petits objets sur le marché, de construire des projets, des voyages, des bivouacs, des randonnées, de construire ensemble un cabanon pour y installer une guinguette, de partir en roulotte avec des chevaux de trait ou des mules, de grimper dans les arbres, d'aller à la cueillette des champignons, d'aller mettre ses pieds dans le torrent. Tout ça, c'est ce que font les enfants quand ils sont libres pour apprendre. Et ils font bien plus que cela. Quelle est l'inquiétude ? De quoi avons-nous peur ? en imaginant que les enfants vont apprendre du vivant? Est-ce qu'on a peur qu'ils deviennent trop vivants eux-mêmes? Est-ce qu'on a peur de manquer de, je sais pas, d'ingénieurs, de médecins, d'architectes? L'histoire nous montre que les enfants qui sont accompagnés différemment dans cette liberté d'apprendre, de foisonner le monde pour pouvoir trouver la pépite ou la perle qui les intéresse, sont des enfants qui vont contribuer activement et d'une manière efficace à la société, à son renouvellement, à sa créativité, à servir le monde. Je ne connais aucun enfant qui a été instruit en famille ou qui est allé à l'école alternative, Montessori, Steiner, Freinet, peu importe, et qui ensuite avait l'obsession de poser des bombes ou de nuire. Ou... J'en connais même pas un seul qui soit devenu délinquant. Alors oui, ils n'ont rien d'exceptionnel ou de parfait, ces enfants-là. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des expériences limites, faire la fête, trop boire. Il y aura sûrement des fumeurs de joint, il y aura sûrement des enfants qui ont pendant un temps une errance, qui vont pas forcément s'inscrire activement dans le monde du travail, par exemple, parce qu'ils sont dans le voyage. Mais ils continuent d'apprendre, ils continuent de vivre, ils continuent de faire tourner la société, en fait, ces enfants-là, ces jeunes-là. Et puis, il y a tous ceux aussi qui très tôt se découvrent une compétence, une passion, un attrait pour un domaine professionnel et qui vont tirer ce fil-là d'une manière passionnée parce que c'est leur fil. Personne ne leur a imposé. Ils ont toute leur énergie personnelle disponible pour déployer et pour se déployer au travers de ce choix. Un choix qui peut changer aussi. Et avec la même ferveur et avec le même intérêt pour la vie, ils vont pouvoir peut-être développer d'autres compétences métiers. Peu importe, ce qui est indispensable, c'est que notre démocratie soit préservée, c'est que notre liberté soit honorée. Nous naissons libres et égaux en droit. Cela veut dire ce que ça veut dire, libre. Comment peut-on apprendre la liberté à des enfants à qui on impose dès l'âge de 3 ans de vivre une grande partie de leur vie en institution? Que ce soit une possibilité parmi d'autres possibilités, très bien, c'est parfait. Parce qu'il y a des enfants qui en ont besoin. Il n'y a pas forcément les ressources à la maison, le temps, la bienveillance qui sont nécessaires pour que l'enfant trouve dans son cadre personnel, ce qui va le nourrir. Donc l'école est indispensable pour beaucoup d'enfants. Mais en quoi le fait de priver tous les autres enfants de la liberté de choix est un avantage pour notre société? Qu'on me l'explique. Parce que là, à cet endroit-là, je ne comprends pas. Donc même si vous n'êtes pas directement concerné par l'instruction à la maison, j'espère que ce podcast vous aura permis de mesurer à quel point il est nécessaire de se positionner pour la liberté de choisir, pour la liberté de créer des voies nouvelles, des voies peut-être divergentes par rapport à la norme. Parce que notre avenir commun dépend directement du maintien inconditionnel de ces possibles. Merci de m'avoir écouté.